Radio Okapi.
Les jeunes du territoire de Beni au Nord Kivu s'engagent à renforcer leur collaboration avec les forces de défense et de sécurité afin de prévenir les attaques des rebelles ADF. Au cours d'une rencontre organisée samedi 14 février à Oicha, chef-lieu du territoire, ils ont décidé d'améliorer la communication avec la police et les forces armées de la RDC et de dénoncer systématiquement toute présence suspecte au sein de la communauté. Ils demandent aux autorités et aux services compétents de garantir des réponses rapides et efficaces face aux alertes sécuritaires afin d'éviter de nouvelles violences. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la restitution de l'atelier d'éveil des consciences patriotiques et des renforcements de la collaboration civilo-militaire tenu le 25 janvier dernier avec l'appui technique et financier des affaires civiles de la MONUSCO à Beni. Initié par le Parlement des jeunes d'Oicha avec le soutien de l'organisation Ubuntu Panafrica, la réunion a rassemblé près de 500 jeunes de la commune et des localités environnantes du territoire de Beni. Objectif, éveiller la conscience citoyenne des jeunes face à la menace persistante des rebelles ADF. Pourquoi les jeunes de Beni décident de s'impliquer maintenant? Comment éviter que cela ne devienne de l'autodéfense incontrôlée? Nous en parlons dans ce magazine 100% jeunes. Avec Marc et Maro Fimbo qui réalise ce programme, nous ferons également le point sur les avis de la jeunesse de Beni au forum provincial de paix tenu dans la zone. Cette émission est mise en onde par André Mungu, coordination et présentation grâce à Mzati. Bonjour à tous et bienvenue. L'extrémisme violent reste une menace persistante dans la région de Beni. La population fait face presque chaque jour à des attaques attribuées aux rebelles ADF, aussi bien dans le territoire de Beni que dans la chefferie des Bassois, territoire des Lubero. Face à cette situation, les jeunes appellent à une mobilisation collective et à une collaboration étroite avec les services de sécurité pour rétablir la paix. Nous en parlons avec vous, Marc Marofimbo. Bonjour Marc.
Bonjour, grâce à Mzati. Les attaques des groupes armés dans la région de Beni et dans les territoires de Lubero continuent de peser lourdement sur les quotidiens des populations. Les jeunes figurent parmi les premières victimes. Certains sont enrôlés des forces dans les groupes armés, d'autres fuient leur village par crainte de violence dans un contexte socio-économique déjà précaire. Ce phénomène d'extrémisme violent prend de l'ampleur. Mais que faut-il entendre par extrémisme violent? Maître Toudidiane, activiste des droits humains dans la région de Beni, apporte des éclaircissements.
L'extrémisme violent, ce n'est pas une chose vraiment à encourager. Et surtout que nul n'ignore qu'est-ce que l'extrémisme violent. Parce que c'est un individu ou un groupe qui menace ou qui utilise la violence et ou aussi qui s'approprie les intérêts ou promouvoir ses propres convictions. Cela, ce n'est pas une chose à encourager. C'est une chose vraiment à sensibiliser, à conscientiser et à mobiliser nos semblables, nos enfants et nos hommes à ne pas vraiment s'unir ou rejoindre ce genre de mouvement, parce que si nous prenons les camps de meurtre que nous observons avec les ADF, vous allez comprendre que l'extrémisme est violent pour nous ici, ça nous cause beaucoup de problèmes. Nous sommes des victimes, nous sommes tués, nous sommes violés, nous sommes mutilés. C'est parce qu'il y a multiplicité d'extrémismes violents dans la partie grand nord de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, de ma part, moi, je demande à la population de plus s'impliquer et à sensibiliser sur l'extrémisme violent. Et surtout avec à l'ère des nouvelles technologies, à couper l'hémorragie des transferts des messages des extrémismes, les images que nous trouvons sur les réseaux sociaux, à les partager, à nous les encourageons à faire de mal ou nous faisons leur publicité sans les savoir. C'est ainsi que, une fois vous tombez sur le message des extrémismes violents, que vous avez constaté que ce n'est pas vraiment éducatif, ces messages, ou c'est faire la propagande de ces extrémistes, il ne faut pas vraiment le partager. Et surtout que c'est plus les promouvoir au lieu de promouvoir notre armée. Vous allez comprendre que cette situation nous concerne et tous nous devons nous mobiliser pour couper l'hémorragie les extrémismes violents et surtout que ça nous cause beaucoup de problèmes.
Face à cette situation alarmante, la jeunesse du territoire de Beni, notamment dans la commune rurale d'Oicha, s'engage à collaborer avec les services de sécurité. Omar Kalicia, président de la société civile du territoire de Beni.
Nous avons un grand défi. Nous avons un problème. C'est l'attaque et la menace des ADEF. Il y a la menace d'M23. On a trouvé que ce n'est pas important. Qui est quand même séparation entre le gouvernement congolais, qui a aussi ses partenaires, la MONUSCO, UPDF, et je pense, et nous la population. Mais tout ce qu'a chacun dit à son côté, il dit nous voulons la paix. Mais on ne peut pas avoir cette paix en étant séparés. Le temps est là, nous devons vider nos couacs, nos divergences, mais faisons d'abord un pas et chercher cette paix. Elle doit être la bienvenue. Et nous, pour le moment, nous sommes pour la paix. Alors, quand il y a divergence, ça signifie qu'il n'y a pas la paix. Et nous ne pouvons pas refouler la paix, qui est tant bien recherchée. Il y a des résolutions, même au niveau des Nations Unies, de nouvelles résolutions. Mais quand on essaie un peu de lire, vous trouvez qu'on est en train de conjuguer vers une chose. Ce qui nous manque, c'est l'unité. Le moment est là, faisons l'unité, on va évaluer cette unité. Pas une unité de l'hypocrisie. Faisons cette unité, nous allons l'évaluer après 3, 4 mois, 5 mois, nous allons voir ce que ça va nous amener. La population, nous la félicitons parce que nous avons toujours le temps de leur dire. Quand nous représentons la population, ce n'est pas la masse qui conduit le représentant. Mais ici, des réflexions, conscience et caution. Ils doivent nous écouter, on ne peut pas leur amener du mal. Nous sommes là pour les conduire, pour le fait qu'on chute dans le bon. Que cette population capitalise, c'est fait. Les représentants nous conduisent, mais il faut que nous les conduisons pour chuter dans les bons. Et c'est ça notre mission. Maintenant, ce que nous allons aussi demander, c'est aux partenaires, même le gouvernement congolais, d'autres organisations, la MONUSCO, ils doivent nous venir aussi en appui, comme ils ont fait. Parce que cette population aussi, des fois, elle peut être là sans savoir ce qui s'est dit. Parce que c'est là où maintenant, quand nous sommes partis à une formation de la communication, la désinformation, mésinformation, malinformation, c'est là où notre population est perdue. Mais il faut quoi? Les appuyer, il faut les capacités. Et c'est ça, maintenant les capacités, ça demande aussi un accompagnement. Parce que les gens profitent de cette faiblesse des connaissances, de l'ignorance, de nos bases, pour faire autre mal communication ou bien des désinformations qui embrasent les entités. Mais il est temps. Nous, on s'est assumé, on a dit on va travailler aux côtés de la population et nous devons conduire notre population dans le bon sens.
Même appel du côté de la société civile communale d'Oicha. Darius Siairia, membre de cette structure, invite les jeunes à s'impliquer activement dans la protection de leur milieu.
C'est en fait une désolation de constater la recrudescence de la sécurité aux alentours de la commune d'Oicha. Donc c'est la commune qui est vraiment visée et on est en train de vivre sous secousse de cette sécurité. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu embuscade tendue au niveau à la hauteur de Malibo, c'est sur l'axe Oicha Mamove où nous avons perdu 4 civils et 6 motos qui ont été incendiées. C'est un bilan provisoire. Un événement qui s'est passé les avant-midi de ces mardis. Donc ce sont des cas que nous sommes en train de condamner, des cas de trop. Et nous sommes en train d'interpeller, de rappeler en fait les outils de sécurité, de bien vouloir mettre des bouchons doubles pour protéger cette population longtemps meurtrie parce que les signaux sont déjà au rouge. Si jamais les situations ont commencé au niveau de Tchane et Sampoko, ils sont en train de déborder. En tout cas, ils sont en train d'errer en électro libre aux alentours de la commune d'Oicha. Donc les services devraient vraiment prendre des dispositions idoines pour protéger la population dans des grandes agglomérations et protéger des structures sanitaires partout où nous en avons dans le territoire de Beni et surtout encercler les grandes agglomérations pour mettre à l'abri, n'est-ce pas, et la population qui est vraiment vulnérable par rapport vis-à-vis de l'attaque de l'attaque ADEF qui est en train d'écumer la population en général. au niveau ici local, nous sommes en train de rappeler les responsabilités de tout et chacun, que ce soit au niveau de la commune. La bourgmestre doit vraiment bien échanger avec ses administrés, bien échanger avec les services de sécurité locale, les comités de sécurité locale. Nous venons de sortir dans une réunion où nous avons appelé la population à la vigilance et à travailler en collaboration avec les chefs de base. Ça veut dire les jeunes, la population en général, chacun dans sa cellule, chacun dans son avenir. On doit vraiment être ligué aux côtés de ces chefs de cellule, de ces chefs de base pour, n'est-ce pas, préparer, pour, n'est-ce pas, prévoir des stratégies idoines locales adaptées, n'est-ce pas, pour prévenir, ou des systèmes d'alerte pour, n'est-ce pas, remonter cette alerte au moment opportun pour prévenir les dangers, parce que c'est la commune de Ouidja qui est visée et tout le monde ne doit pas dormir sur les deux oreilles. On doit vraiment tous se mettre au travail, que ce soit les outils de sécurité, que ce soit la population au niveau local. Chacun doit miser sur son effort pour que nous tous, nous puissions contribuer à la sécurisation de notre commune de Ouidja. Et pendant ce temps ici, nous voulons en fait que les agents de sécurité puissent agir avec responsabilité. Nous sommes en train de condamner le fait qu'un comportement a vraiment causé un incident au niveau de Tchanidjani, Samboko, où un militaire fardessé qui a crépité plus de balles, donc une valeur de 6 chargeurs, aujourd'hui à 14h, et cet agissement a créé une panique au sein de la population, où nous avons vu 16 personnes, dont 5 enfants, n'est-ce pas, trébucher dans la rivière Samboko, et qui ont été sauvés de justesse. D'ailleurs, il y a déjà deux rescapés qui sont déjà alités au niveau de l'hôpital général de référence d'Ouidja. Ce sont des agissements de trop que nous condamnons, parce que pendant que ça est en train de brûler par-ci par-là, et quelqu'un se donne le luxe, n'est-ce pas, de crépiter des balles sans aucun motif, je crois que c'est condamnable, et nous sommes déjà au courant que l'incriminé est déjà aux arrêts au niveau du camp militaire de Tchanidjani. Nous voulons les voir être traînés devant la justice pour que, n'est-ce pas, ça serve de leçon à tous ces éléments-là qui peuvent chaque fois, n'est-ce pas, exceller dans des comportements prohibés pourtant par la loi.
À Kassindi-Loubiria, cité frontalière avec l'Ouganda, située à environ 90 km au nord-est de Beni, l'insécurité reste marquée par des incursions nocturnes dans les habitations. La société civile appelle également à une franche collaboration avec les forces de sécurité. Paul Zaidi, premier rapporteur de la société civile du groupement de Basongora.
La société civile appelle la population à collaborer étroitement avec le chef de base ainsi qu'avec le responsable de la police, de l'armée et des autres services de sécurité, notamment par le partage d'alertes et d'informations utiles afin de mettre hors d'état de nuire tous les groupes criminels opérant dans cette partie du territoire de Beni au nord Kivu.
Dans la partie ouest du territoire de Beni, le message est le même: unir les forces pour faire face aux groupes armés. Tchétcha Yamini Moussoubao, président de la société civile de Katine Aloya.
Nous devons impérativement collaborer avec notre unique armée, qui est les forces armées de la République démocratique du Congo, également avec les volontaires pour la défense de la patrie, tout en veillant à maintenir une communication responsable lors du partage des formations sur les forums WhatsApp et d'autres réseaux. Cela nous évitera de tomber dans les pièges de la loi numérique de notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Nous appelons la population des cantines et de ses environs à utiliser les réseaux sociaux de manière appropriée et responsable. Les propos diffamatoires, les injures à l'encontre des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que les fausses accusations dirigées contre notre armée et tout autre Congolais, constituent une violation grave des droits et des principes éthiques stipulés dans la loi numérique. Partager des rumeurs, oui, c'est acceptable, mais cela doit se faire sans porter atteinte à la réputation de notre armée. Donc, qu'un groupe ou individu, il est essentiel de vérifier la source d'une information avant de la diffuser, afin d'éviter la haine, la désinformation et les mésinformations. Vérifier les rumeurs, c'est garantir notre bonne réputation et c'est former d'une manière responsable et précise.
Dans le territoire de Lubero, des étudiants ressortissants de la région basée à Butembo ont lancé une campagne de sensibilisation pour mobiliser les communautés derrière les forces de sécurité. Clovis Kasereka, coordinateur de cette coalition estudiantine.
Voyant le problème que traverse actuellement la paisible population du territoire de Lubero, le problème qui intervient dans plusieurs domaines, notamment la sécurité, la justice, les actions humanitaires et autres, cela nous pousse, nous, étaqués intellectuels, d'agir. Et nous avons projeté des consultations citoyennes dans des agglomérations déjà ciblées, notamment Lubero Centre, Masereka, Mangorejipa, Muhanki, Musimba, Musienene, Lutu, Masereka, pour essayer de nous entretenir, nous, en tant que population, les autorités locales, mais aussi nous appelons les députés provinciaux nationaux élus de ces territoires de venir nous rendre compte, parce qu'ils sont dans leur moment de vacances parlementaire. Radio Okapi.
À Beni. Okapi. Sur 92 FM.
Alors, Marc Maro, qu'en est-il de l'intervention de la jeunesse au forum provincial tenu récemment à Beni?
Oui, grâce. La question de la sécurité dans la région de Beni et Lubero et même de l'Ituri a été au menu du forum de paix sur la problématique ADEF qui s'est tenu du 23 au 26 février 2026. Ici, les jeunes sont intervenus pour demander que les grandes décisions soient prises par les autorités compétentes. Commençons par cette première réaction d'un jeune du mouvement citoyen de Beni qui pense que toutes les recommandations qui sont issues des différentes rencontres sécuritaires et même celles de ce forum doivent être prises en considération et les mettre en application. Clovis Mutuva.
En principe, oui, si une fois ils vont prendre en considération les recommandations qui viendront de ces forums, mais ce n'est pas le premier. Nous le faisons chaque jour et les autorités ne prennent pas en considération, malheureusement, les forums. Tel que je l'ai dit au préambule, d'abord, ils n'arrivent pas dans ces forums. Le pouvoir central n'est pas là, le ministre de la Défense et celui de l'Intérieur. Et je ne pense pas vraiment qu'il y aura grand-chose, surtout qu'ils ont délégué. Ils ne devraient pas déléguer dans ces forums. J'ai appris que le ministre de l'Intérieur est parti rouvrir la frontière de Burundi et Uvira. Cette question devrait attendre s'il voulait vraiment être là. Ou alors il devrait, par exemple, envoyer celui de l'intégration régionale et venir considérer cette grande question parce que les EDF, c'est depuis plusieurs années. Et voilà, ils ont saboté et vraiment c'est un sentiment de regret et je condamne. Effectivement, nous avons des propositions parce que tout le temps nous les disons. D'abord, nous, on l'avait dit avant l'instauration de l'état de siège qu'il faudra évaluer sérieusement les opérations à court, ce qui n'était pas aussi fait. Malheureusement, nous sommes partis à l'état de siège qui a lamentablement échoué Senga aujourd'hui. Oui, nous pensons qu'on doit lever cette mesure, on doit réévaluer les opérations à court, voir quel est le commandant qui a fait bien ce boulot, on le maintient, et celui qui n'a pas fait ce boulot doit être mité également. D'autres qui ont passé autant d'années ici doivent être mités, également nous faire participer, nous la population, on a déjà demandé autant de fois une vraie formation accélérée pour que nous, population, nous ayons aussi des armes pour faire face à l'ennemi. Nous savons les modes opératoires, des EDF ils viennent avec les armes à feu, les machettes et tout. Et si nous avons les armes à faire, nous pouvons aussi faire face à ces ennemis, bien sûr après une formation. Et c'est là cette fois-ci, après avoir identifié ceux-là qui ont été formés, pas comme nous avons vu distribuer des armes, surtout que je profite à vous informer, qu'à un moment j'ai eu un échange avec certains responsables de l'armée de la ville de Beni, ils ne savent pas si à Beni nous avons combien de militaires. Nous avons combien d'armes, nous avons combien de policiers. Et ça, c'est déjà un problème, car c'est là qu'ils sont censés connaître toutes les armes dans la région, tous les éléments militaires et policiers dans la région ne savent pas les nombres. Et ça, c'est déjà un danger permanent. Mais pour une fois, si une fois on accepte la formation militaire accélérée, je crois, Nyaleke, là, théoriquement, mais il n'y a absolument rien. Moi-même, j'étais à Nyaleke, j'avais envoyé autant d'éléments à Nyaleke. Je profite à vous informer que des éléments, certains qui étaient avec nous à Kangaimbi, autour de 2703 sont partis dans les centres de formation de nos forces armées à Kananga. Ils sont formés là-bas. À Nyaleke, il n'y a absolument rien. Depuis qu'ils avaient dit qu'ils ont lancé les opérations, ça fait autour de 8 mois. Pourtant, la formation était prévue pour 45 jours. Donc, aucune équipe n'a été formée. Il n'y a rien. Nyaleke, c'est théorique, mais pratiquement, il n'y a absolument rien à Nyaleke.
Une autre réaction est de Deogracias Nyamwisi, un jeune activiste des droits humains et acteur politique de la ville de Beni. Pour lui, bien que les jeunes doivent accompagner l'État dans la recherche de la paix, tout doit commencer par la motivation des autorités à conjuguer la bonne volonté de chercher la paix. Deogracias Nyamwisi a été aussi participant dans ces forums de paix.
Vous savez, d'abord, je suis fier de participer à ces forums. Vous savez, manquer à un rendez-vous de paix, c'est conspirer contre la paix elle-même. Raison pour laquelle nous avons dû participer à ces forums de paix pour voir quelles sont les solutions, les résolutions qui vont émaner de ces forums pour résoudre ces grands problèmes qui ne cessent de nous déranger depuis beaucoup d'années. Vous savez, le problème d'ADF, au-delà d'être un problème qui est au niveau de la province de Nord Kivu, au niveau national, c'est aussi un problème de la région parce qu'il oppose deux pays qui sont des pays frères, l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Donc nous devons élargir nos solutions, nos résolutions, qu'elles ne soient pas seulement locales, qu'elles soient nationales, aussi internationales, pour que ces problèmes soient bannis une fois pour toutes. Nous devons revenir pour ce qui doit faire d'un État-État. Pour que nous voulons être un État souverain, nous devons être forts. Forts militairement, forts diplomatiquement. Tous nos services de sécurité doivent être en forme. Si on est fort en tant qu'État, aucun pays ou aucun groupe rebelle ne peut se lever aujourd'hui matin et dire « bon, nous, nous prenons ces côtés, nous tuons les populations ». Non, parce que nous serons sûrs que nous aurons devant nous une armée qui est forte, nous aurons devant nous une police qui est capable de sécuriser les populations dans toutes ces différentes couches et aucun groupe rebelle, aucune rébellion ne peut naître du matin au soir pour venir déstabiliser notre pays. Donc, nous devons plus miser sur nos services de sécurité si nous voulons être forts et que si nous voulons que d'autres pays puissent nous craindre. C'est là que nous devons miser. Nous dénonçons, comme on le fait souvent, nous participons dans des forums qu'on vient de le faire, mais cela ne suffit pas. Il faut que les autorités compétentes, vous le savez, puissent prendre des solutions qu'il les faut pour que nous puissions résoudre ce problème. C'est un secret des polichinelles. C'est un secret des policiers, c'est connu de tout le monde que ce sont les autorités qui doivent sécuriser les populations pour que ces derniers puissent vivre en paix. C'est juste ça. Vous savez, comme aujourd'hui, ce n'est pas seulement le problème des ADF, hein, c'est aussi un problème des M23 qui aujourd'hui nous dérange. C'est aussi un problème à prendre au sérieux. Et je vois qu'il y a des multiplications, des rencontres qui se font pour qu'il y ait un dialogue. Ça, c'est une belle voie parce que aucune guerre n'est pas finie autour d'une table. Même la plus grande guerre, la deuxième guerre mondiale, elle était finie autour d'une table. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons des pays qui ont le droit de veto, les participants aux Nations Unies, tout cela. Donc nous devons trouver des solutions qui vont aider la postérité, pas pour une accalmie. Si nous passons à l'accalmie, on n'aidera pas la postérité.
Justement, lors de ce forum qui a connu la présence du président de l'Assemblée nationale, prenant la parole, le gouverneur militaire du Nord Kivu a appelé les uns et les autres à unir les forces pour que la question de l'insécurité causée par tous les groupes armés dans la région, à l'occurrence les ADF, soit de la responsabilité de tous, le général Somo Kakule Evariste.
En effet, de l'historique des ADF au mode opératoire, en passant par la source de financement, d'approvisionnement et de recrutement, la cartographie, le bilan macabre des violences, le cadre juridique et judiciaire, il y a lieu de déclarer que nous sommes aujourd'hui, plus qu'hier, réarmés mentalement, moralement et scientifiquement, ce qui nous rend capables de parler le même langage et de construire une stratégie concertée de neutralisation de ce phénomène. Un partage d'expériences entre experts ougandais, congolais, ceux de la MONUSCO, ceux de la société civile et ceux des volontaires pour la défense de la patrie. Sur la question sous analyse, a permis à tous de mieux connaître leur ennemi commun, à savoir les ADF, MTM, ISCAP, et de comprendre la nécessité de renforcer la coordination et la mutualisation des efforts pour sa neutralisation sans stigmatisation. Désormais, la question des ADF sera abordée non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international comme une menace contre la paix, contre l'humanité et dont il faut trouver une réponse appropriée à la hauteur de sa gravité. Je suis donc persuadé que ce forum ne va pas rester un événement isolé, mais constitue un point de départ des actions concrètes pour mettre définitivement fin au cauchemar dont nos populations sont victimes depuis très très longtemps. Nous sommes donc invités à être des artisans de paix. Non la paix de cimetière, mais la paix obtenue sur fond d'un engagement renouvelé à nous prendre en charge au lieu d'abdiquer et de courber la tête face aux ADF qui ne sont pas invincibles. Ils sont vulnérables et nous devons les affronter sans peur jusqu'à leur éradication totale. Il suffit d'y croire et d'agir ensemble comme un seul homme. Ensemble, unis et déterminés, nous vaincrons. Ensemble, barrons la route à ces barbares. ensemble, refusons que nos champs, nos maisons, nos écoles soient des cibles, nos églises, nos hôpitaux, des tombeaux et moins encore nos hôpitaux, des boucheries.
Enfin, jeudi dernier, lors de la remise d'un bâtiment construit par la MONUSCO pour la société civile du territoire de Beni, l'administrateur militaire assistant, le colonel Marcel Caloni, a exhorté les jeunes à prendre pleinement en compte les enjeux sécuritaires dans la région. Voilà l'essentiel grâce à Mzati.
Merci beaucoup à vous, Marc Marofimbo, pour toutes ces explications. Merci d'avoir choisi Radio Capi pour vous informer. Vous êtes à l'écoute du magazine 100% Jeunes. Dans cette seconde partie de l'émission, nous abordons la situation de la jeunesse du Sud Kivu, dont certaines entités sont sous le contrôle de la rébellion AFC M23 depuis une année. Dans ce studio, nous recevons les responsables du Conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu, actuellement en mission de plaidoyer à Kinshasa.
L'invité.
Pascal Ntambuka, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la Radio de la Paix, la Radio Capi.
Alors, vous êtes président du Conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu. Bienvenue à Radio Capi, surtout dans ces magazines des jeunes, 100% jeunes.
Merci beaucoup pour ce beau cadre, mais également pour l'émission 100% jeunes.
Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné d'une très grande délégation. Déjà, je vois la vice-présidente qui est là, Mbenga Ekongo Sanela. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à Radio Capi.
Merci beaucoup.
Et puis, nous avons aussi le trésorier du Conseil provincial de la jeunesse, John Kabonderoa. Bonjour, John.
Bonjour.
Et ensuite, Dieu merci, Boudjiriri, qui est conseiller en charge d'entrepreneuriat. Dieu merci, bonjour et bienvenue.
Merci beaucoup. Et je salue également les auditeurs et auditrices de la Radio Capi qui nous suivent en ce moment. Voilà.
La première question, Président, je reviens à vous, Pascal Ntambuka. Ça fait pratiquement une année depuis que la ville de Bukavu est sous occupation de la rébellion AFC M23. Mmh. Une année après, qu'est-ce que nous pouvons retenir de la vie des jeunes sud-kivusiens?
Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, c'est depuis le 14 février 2025 jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, il y a la rébellion à Bukavu depuis l'arrivée de la rébellion. C'est vraiment la vision de la jeunesse qui a été brisée, tous les projets des jeunes. Et ce que nous pouvons dire en tant que Conseil provincial de la jeunesse, il y a vraiment plusieurs initiatives du point de vue gouvernemental. Le gouvernement qui avait déjà lancé les différentes activités auxquelles d'ailleurs prenait part la jeunesse pour voir comment la jeunesse peut également contribuer au développement de la province. Alors toutes ces différentes initiatives et même le conseil que vous voyez ici, le conseil provincial de la jeunesse qui était d'ailleurs en début de son mandat, a eu vraiment des perturbations après la prise par la rébellion de la ville de Bukavu.
Et donc, en plus bref, la jeunesse de Bukavu, pour le moment, ne se porte pas bien.
Effectivement, la jeunesse ne se porte pas bien, mais elle garde espoir, vu les différents efforts diplomatiques du gouvernement, du chef de l'État. La jeunesse garde espoir avec la résolution 2773, avec différentes démarches, et nous espérons, en tout cas, nous n'allons pas croiser les bras. Nous sommes une jeunesse debout, une jeunesse consciente, et nous pensons que nous devons être impliqués, pas tout simplement être impliqués, mais participer et prendre part aux différents processus de rétablissement de la paix, parce que c'est la jeunesse qui est la toute première victime de tout ce qui se passe, et nous pensons qu'il est temps en tout cas que la jeunesse prenne conscience de tout ce qui nous arrive. Nous sommes nés dans la guerre, nous y avons grandi, mais nous espérons que nous n'allons pas laisser la même situation aux générations qui viendront après nous. Et c'est pourquoi nous sommes une jeunesse consciente du développement, consciente de notre rôle, bien évidemment, de construire, parce que nous sommes une couche bien importante de la population, plus de 75% de la population. Et donc, nous espérons que par différentes démarches et initiatives que nous sommes en train de mettre en place, et surtout que le gouvernement prend à cœur la question de la jeunesse, jeunesse. Nous espérons qu'il y aura en tout cas une suite favorable parce que depuis un certain moment, c'est la jeunesse qui fait parler, c'est la jeunesse qui parle et donc la jeunesse est consciente de son rôle dans le rétablissement de la paix.
Alors ça, c'est Pascal Ntambuka qui nous fait un état des lieux de la jeunesse du Sud Kivu. Oui, la jeunesse ne se porte pas bien comme d'habitude, mais elle garde espoir. C'est ce que nous pouvons retenir de sa première intervention. On peut aussi quand même savoir la situation de la jeune fille. Et là, la question s'adresse à Sanela. La situation de la jeune fille du Sud Kivu, particulièrement celle qui vit dans les entités sous contrôle de la rébellion AFC M23.
Alors, pour parler de la situation de la jeune fille dans les zones occupées, je dirais que les jeunes filles passent par différentes réalités et sont exposées à plusieurs types de vulnérabilités à la fois. Vous savez, quand on est en guerre, on parle des violences sexuelles. Ce sont les jeunes filles qui sont au centre de cela. Les jeunes filles, et bon, j'aime parler des jeunes femmes aussi, hein, parce qu'il y a une certaine nuance. Nous parlons des jeunes filles et des jeunes femmes qui sont exposées à toutes ces vulnérabilités. D'abord, les violences sexuelles, comme je l'ai dit, dont les femmes souffrent depuis plus de 30 ans. Il y a des jeunes filles qui sont nées de femmes qui ont été victimes de viols. Il y a celles qui ont elles-mêmes vécu ces atrocités, si je peux les appeler comme ça. Et il y a celles qui ont décidé de s'exprimer. J'encourage beaucoup ces jeunes femmes, hein. Là, je suis toujours dans le cadre des violences sexuelles. J'encourage beaucoup ces jeunes femmes qui ont le courage de prendre la parole. J'ai parlé des différentes réalités, différents types de vulnérabilités. Pour ne pas me limiter à ce qu'il y a comme violence, je parlerai aussi de celles qui sont exposées aux difficultés relatives à l'abandon de leur parcours scolaire. Lors de la prise de Bukavu, beaucoup de jeunes filles se sont déplacées. Beaucoup de jeunes filles ont dû mettre pause, comme on dit, à leurs études. Beaucoup de jeunes filles ont vu leur perspective d'avenir dans une incertitude. Et c'est ce que personnellement j'ai vécu, je tiens à le souligner. Et je sais que beaucoup de jeunes femmes passent par là. Mais il y a ces jeunes femmes aussi qui sont exposées à tout type de manipulation due à leur vulnérabilité socio-économique. Il y a des femmes qui avaient des activités génératrices de revenus. Il y a des femmes qui avaient leur projet, leur business, qui ont dû laisser tout ça derrière. Et ça, ça brise aussi. Et ça expose à tout type de vulnérabilité, manipulation, utilisation. Mais il y a aussi ces femmes qui sont un mélange de tout ça et que je préfère mettre en avant. Ces femmes, parce que malgré tout ce par quoi ces femmes passent, il y a celles qui décident de parler, décident de faire quelque chose. Et ça, ce sont les différentes réalités. Mais le point commun, c'est que j'ai remarqué qu'aujourd'hui, il y a un certain dépassement de ces réalités. Nous vivons, comme le président l'a souligné dans son intervention, nous avons vécu cette guerre depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, ces jeunes femmes essayent un peu de se relever. Il y a des jeunes femmes qui essaient un peu de se relever. Alors, ces différentes réalités vécues par les femmes doivent vraiment être mises en avant. Vécues par les jeunes femmes doivent vraiment être prises au sérieux. Parce que si on n'y met pas l'attention que ça mérite, c'est carrément l'avenir de la province qui est en jeu. Parce que la province ne peut pas se construire sans les femmes. La province ne peut pas se construire sans les jeunes filles. Quand je parle de jeunes filles, je parle de la fille dans tous ses états. Je parle aussi des enfants. Parce qu'aujourd'hui, nous devons vraiment travailler sur ça. Faire comprendre que la jeune femme a son rôle à jouer dans la reconstruction de notre province. Donc, c'est important de souligner ça et de prendre en compte toutes ces différentes réalités afin de travailler ensemble sur voilà la conception ou du moins la réflexion afin de trouver des solutions, si je peux dire ça comme ça.
Et comment, au niveau du Conseil provincial de la jeunesse, vous vous organisez localement pour accompagner ces jeunes femmes, ces jeunes filles qui sont justement en difficulté? Et vous avez parlé notamment des cas des violences sexuelles. Quel est le rôle que vous jouez d'abord localement? Parce que je sais que à Kinshasa, vous êtes en mission et nous allons en parler dans cette émission. Mais au niveau du Sud qui vous ouvrira aujourd'hui, les chefs-lieux provisoires de la province, il y a des entités qui ne sont pas encore occupées par la rébellion. Comment le Conseil provincial de la jeunesse accompagne ces jeunes femmes?
Merci beaucoup. Alors, pour accompagner ces jeunes femmes, il faut d'abord comprendre ce par quoi elles passent. Mm-hmm. Nous, le conseil provincial, les accompagnons en sensibilisant contre la violence. Quand on parle de violence, il faut très bien comprendre ce que c'est la violence. La violence, ce n'est pas seulement, voilà, des groupes armés qui tuent des gens. La violence, c'est l'atteinte à la personnalité d'une personne. Mm-hmm. Et quand on fait ces campagnes de sensibilisation contre la violence et pour la paix, on intègre cela. Une personne qui orchestre ce genre de choses, des violences basées sur le genre, il doit comprendre qu'en fait, quand il fait ça ou quand cette personne fait cela, elle participe à tout ce qu'il y a comme destruction. À travers les campagnes de sensibilisation contre les violences, nous insistons sur le fait de mettre fin à ces violences basées sur le genre. Nous avons organisé certaines campagnes de sensibilisation. L'année passée, nous avons fait une campagne numérique, hein, en ligne à l'occasion de la Journée internationale de la femme, pour sensibiliser non seulement les femmes, hein, parce que on ne peut pas toujours aller dans le sens de la victime. Nous, les femmes, nous avons aussi notre rôle à jouer dans ce qu'il y a comme campagne contre les violences sexuelles. Nous devons nous mettre ensemble et nous battre contre cela. Nous avons continué à ouvrir à travers les différentes activités que nous faisons. Vous savez, l'aspect de violence sexuelle, c'est un aspect qui peut être évoqué dans tous les sujets. Okay. Nous organisons des activités sur la cohésion sociale, qui parle de cohésion sociale, implique aussi le bon vivre ensemble. Et nous insérons toujours cet aspect-là. Disons que c'est un sujet qu'on a toujours à la bouche. Dans tout ce que nous organisons, nous essayons aussi de l'autre côté de capaciter les femmes. Comme je l'ai dit au début, ce qui expose les femmes à ce genre de choses, c'est aussi la vulnérabilité économique. Nous essayons aussi de rendre les femmes autonomes pour qu'elles puissent être capables de se prendre en charge. Et avec ça, nous étions déjà en train d'organiser une formation en obtention de microfinance pour les jeunes femmes pour la ville de Baraka. Nous l'organisions pendant la période où les rebelles sont arrivés dans la ville d'Ouvira. Mais c'est quelque chose que nous avons toujours en tête. Donc nous nous sommes donné cette mission de travailler, moi en tant que vice-présidente en charge du genre, de travailler sur l'autonomisation de la femme et la lutte contre la violence. Et ici, je ne vais pas parler des violences sexuelles. Je préfère qu'on puisse parler des violences parce que ça implique tout ça. La violence, et nous citons toujours cet aspect du genre, cet aspect de violence sexuelle dans tout ce que nous sommes en train de faire.
Alors, je reviens au président Pascal Ntambuka. Est-ce que dans toutes les initiatives de la jeunesse, dans toutes les actions que vous menez, vous associez les autorités provinciales?
Effectivement, nous travaillons toujours en commun accord avec nos autorités au niveau de la province, au niveau provincial. Et nous avons d'ailleurs plusieurs initiatives que nous étions déjà en train de lancer avec le gouvernement. Mais il y a toujours des perturbations, comme à Ouvira, c'est encore perturbé. C'était le même cas à Bukavu. Donc, il y a certainement de la lenteur. Mais ce n'est pas dû à nous, mais en tout cas à la circonstance et surtout à la présence de la rébellion.
La question à John Kabonderoy, qui est trésorier du conseil provincial de la jeunesse. Avec cette situation, est-ce que votre structure fonctionne normalement?
Avec cette situation, vraiment, c'est une situation qui a, au fait, divisé, permettez les termes, mais je peux dire que d'une manière de collaboration, lorsqu'une équipe est unie, une équipe est toujours ensemble, et lorsque une équipe est toujours ensemble, ils travaillent dans l'unité, et ils essaient quand même de se partager les idées par rapport aux initiatives, mais aussi par rapport aux différents projets. Mais permettez de les dire que avec cette guerre, vraiment, nous ne sommes plus ensemble. Il y a ceux qui sont résilients et ils se sont dit qu'ils vont d'abord rester dans la ville de Bukavu. Mm-hmm. Parce que aussi se déplacer de la ville de Bukavu, aller à Ouvira, ça demande aussi des moyens.
Exactement.
Nous n'avons pas, en fait, l'appui financier du côté du gouvernement pour notre prise en charge. Alors, moi, d'abord, ça dépend d'abord de la situation familiale, mais aussi la situation aussi sociale vis-à-vis de la famille et consorts. Moi, je suis natif d'Ouvira. Si aujourd'hui, je suis à Ouvira, et donc, je suis d'abord à la maison. Il y a ceux qui sont restés à Bukavu. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas sortir. Ce n'est pas parce qu'ils veulent rester avec les rebelles, mais ils n'ont pas où aller. Et pour se déplacer, il faut des moyens. On a essayé d'amener des plaidoyers pour qu'on essaie de déplacer ceux qui sont à Bukavu pour qu'on ait quand même une équipe solide, pour qu'on soit ensemble pour qu'on ait quand même le temps de réfléchir ensemble par rapport aux différents projets de la jeunesse. Mais avec la situation sécuritaire, ça vraiment fait à ce que nous ne soyons pas ensemble. Et pour nous, ça fragilisait l'équipe. Ça fragilisait l'équipe sur le plan d'abord communicationnel. Bien sûr, ceux qui sont à Bukavu, on ne sait pas ils sont dans quoi, bien qu'on ait en contact avec eux. Et nous aussi, où nous sommes à Uvira, on essaie de mener des plaidoyers pour qu'on les déplace. Mais vraiment, avec cette distance, ça nous fragilise, surtout sur le plan communicationnel. Ça ne nous aide pas à mieux avancer.
Et là, on peut comprendre qu'il n'y a pas seulement les conseils provinciaux, même d'autres structures des jeunes évoluant au Sud-Kivu. Ceux-là, ces jeunes-là qui sont restés à Bukavu, est-ce qu'ils ne s'organisent pas aussi pour justement accompagner les jeunes qui sont victimes principales de la situation?
Beaucoup de ces jeunes-là, ils ont dit quand même opter l'observation. Ils se sont dit que non, nous sommes là, nous serons résilients, nous allons bien sûr mener des actions de résistance dans la ville, mais pas vraiment être beaucoup plus visible, parce que si vous menez des actions et vous êtes beaucoup plus visible, il y a des rebelles qui vont vous poursuivre. Mais nous encourageons toujours ces jeunes qui sont restés dans les zones occupées. Nous sommes des quais avec eux. Et nous, de notre côté, on essaie de se battre. On essaie de mener des plaidoyers au gouvernement national pour qu'il y ait le rétablissement de la paix au Sud-Kivu et pour qu'on ait l'ensemble de toute la province sous contrôle du gouvernement et sous contrôle de notre armée.
Les FARDC,
bien sûr.
Alors, Dieu merci, Boudjiriri, vous êtes conseiller en charge de l'entrepreneuriat. Est-ce que aujourd'hui, avec la situation que nous connaissons tous au Sud Kivu, particulièrement à Bukavu et d'autres entités sous occupation de la rébellion FCM23, on peut encore parler de l'entrepreneuriat des jeunes?
Merci beaucoup encore une fois pour la parole m'accordée. Je dirais que dans tout ça, ce sont les jeunes entrepreneurs qui sont beaucoup plus victimes. Parce que pourquoi? Ils ont perdu leurs biens, ils ont vu leur entreprise tomber en faillite parce qu'il n'y a plus d'activités qu'ils peuvent continuer à mener dans une zone sous occupation. Et s'ils continuent à le faire, ils n'ont pas où vendre les marchandises. Par exemple, un jeune entrepreneur qui était en train peut-être de travailler dans un domaine quelconque et qui vendait ses marchandises à Uvira. Mais pour le moment, la route est coupée. Celui de Bukavu ne peut plus y aller à Uvira. Voilà que lui-là, il est beaucoup plus impacté. Et quand nous étions à Bukavu, nous étions déjà dans notre deuxième phase du projet OZEP. OZEP qui est un projet Oser Entreprendre pour une paix durable, avec la coopération suisse et la coopérative Nguvu Yaushinzi. Nous étions déjà arrivés dans 6 territoires dans la province du Sud-Kivu. Nous étions à Walungu, nous étions à Kale, nous étions à Kabare, à Idjwi, dans la ville de Bukavu. Et nous avons clôturé ces projets avec beaucoup de difficultés. Et nous étions en train déjà d'espérer commencer avec la troisième phase du projet Oser Entreprendre pour une paix durable, qui pourrait déjà toucher la ville de Kamituga, le territoire de Shabunda, le territoire de Fizi, Uvira et partout là. Et alors, il faut dire aussi que ces jeunes entrepreneurs, bien qu'ils soient dans la ville ou dans des villes sous occupation, ils continuent quand même à travailler et à servir selon le contexte dans lequel ils sont en train de traverser pour le moment à Bukavu, dans les territoires à Kale, à Kabare et aussi voilà à Walungu. Mais je pense que, comme je l'ai dit, les jeunes entrepreneurs, en tout cas, sont en train de traverser beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que il n'y a plus de bailleurs de fonds. Les banques sont fermées. Il y a des bailleurs de fonds qui venaient pour former les jeunes entrepreneurs, les équiper, mais également les financer. Mais les jeunes entrepreneurs, pour le moment, qui n'ont pas de financement, ne savent plus comment décoller. Imaginez aussi, dans la ville de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu, il y a beaucoup de jeunes intellectuels, des jeunes qui ont fini l'université, des licenciés, et ceux qui ont même des masters, mais qui n'ont pas d'emploi, mais ils ont choisi l'entrepreneuriat. Et la guerre a frappé sur nos portes, mais ces jeunes-là, ils se sont vus bloqués, ils ne savent quoi quoi faire. C'est pourquoi nous sommes en train d'encourager les efforts diplomatiques du chef de l'État pour mettre fin à cette guerre et que les jeunes entrepreneurs qu'on recommence convenablement et voilà, et espérer que leur futur sera meilleur. Et maintenant, pour parler de jeunes à Uvira, Baraka, dans des zones qui ne sont pas sous occupation, il faut aussi signaler que Uvira avait été prise et libérée en un certain moment par l'armée congolaise. Et les jeunes, les entreprises des jeunes à Uvira se sont vues piller. Les jeunes ont assisté à des pillages systématiques de leur entreprise, de leur capital humain. Mais également, nous avons perdu beaucoup de jeunes entrepreneurs. Parce que un jeune entrepreneur, quand les rebelles sont entrés et qui étaient peut-être en train de voir comment protéger leurs marchandises, ils sont restés dans la rue, nous avons perdu certains d'entre eux. Mais nous pouvons toujours continuer à parler de l'entrepreneuriat parce que quand nous parlons de la restauration de l'autorité de l'État au site Kivu, ça veut dire que nous devons aussi demander que le gouvernement touche ce côté-là de l'entrepreneuriat des jeunes. Vu que les jeunes n'ont pas d'emploi, et je pense que l'entrepreneuriat va relever ces jeunes entrepreneurs. Voilà un peu par rapport à la situation des jeunes entrepreneurs pour le moment.
Voilà. Est-ce que ces jeunes, quand même, qui sont encore dans les activités malgré la situation, ils sont accompagnés par les autorités provinciales ou alors par d'autres partenaires au niveau de Uvira, par exemple, et de Baraka?
Oui, ils sont accompagnés. D'ailleurs, la fois passée, lorsque le président de la République a organisé la table ronde pour l'emploi et l'entrepreneuriat, nous avons envoyé un jeune entrepreneur qui est venu participer, bien sûr, avec le président du Conseil provincial de la jeunesse à cette table ronde. Et le jeune est parti faire la restitution, même au niveau du gouvernement provincial à Uvira. Et je vois les gouverneurs Jean-Jacques Kouroussi et Jean-Jacques Elakano et notre ministre provincial de la jeunesse, Madame Catherine Tchidjanga Balemba, qui ne cesse d'accompagner aussi les jeunes entrepreneurs et les promouvoir. Nous avons beaucoup de jeunes entrepreneurs à Uvira qui sont en train de fournir des efforts. D'ailleurs, le président, l'actuel président de l'Assemblée nationale, quand il était encore ministre du budget, il était arrivé à Uvira. Et on lui a présenté certains jeunes entrepreneurs et ces jeunes entrepreneurs ont présenté leurs produits. Je me rappelle aussi, il était déjà, après le budget, il était déjà aussi ministre de l'industrie. Et il a visité en tout cas les entreprises de jeunes entrepreneurs et il a quand même essayé d'apporter un plus sur ce qui manquait à ces entreprises de jeunes. Et c'est par là que nous pouvons confirmer et affirmer que les jeunes sont accompagnés par les autorités, mais aussi rappeler que certains jeunes doivent aussi comprendre que la situation n'est pas en tout cas bonne. Ils doivent patienter en fait de voir l'accompagnement durable dans les jours qui vont suivre.
Pascal Ntambuka, Sanela Mbenga Ikongo, John Kabundirwa, Dieu merci Boudjiriri. Merci d'être passé dans l'émission 100% jeunes, c'est votre émission.
Merci beaucoup. Merci à la jeunesse du site Kivu. Très bientôt, nous serons encore ensemble. Merci.
Et c'est la fin de ce numéro de votre magazine 100% jeunes. Merci à nos invités ainsi qu'à Marc Emaro Fimbo qui a contribué à la production et à la réalisation de cette émission mise en onde par André Mongou. Coordination et présentation grâce à Mzati Masanzi sous la supervision de Jean-Marc Matoaki Mofelele Dijanon. Merci de nous avoir suivis et excellente suite des programmes sur Radio Kapi, la radio de la paix.